Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport. Parlons sport, une émission animée par Gilles Bombard.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Sport, l'émission sportive de Marmite FM 88.4. On est là comme chaque lundi en direct de 17h à 18h pour une heure de débat et une heure de sport local. Sont présents dans les studios aujourd'hui, toujours prêt à saisir la balle au rebond depuis sa régie, c'est Julien Mathieu. Salut Julien.
Salut Gilles, bonjour à tous.
Il est vert et candidat à l'Europe, mais il ne fait pas de politique, c'est Quentin. Salut Quentin.
Salut, salut tout le monde.
Alors, on a la première titularisation dans l'émission d'une personne voilà, qui était là il y a encore quelques secondes, mais il a le cœur dijonnais avec le poing levé, c'est Benoît. Il sera là avec nous tout à l'heure dans l'émission pour parler de football. Et on aura également dans quelques minutes Elliot Sikala qui nous parlera des playoffs de la NBA et de basket de manière générale. Nous accueillons à nouveau dans l'émission Olivier Bocquel, vice-président de l'Entente Le Chesnay Versailles, le club de basket très, très puissant en termes d'adhérents. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Donc, en résumé, nous avons un Stéphanois, un Dijonais, un Lyonnais, un Rennais qui arrive, un Versaillais Chesnay Courtois. Je crois que là, on est bon pour commencer un débat en toute bonne foi. Allez, sommaire. Dans quelques instants, dans Parlons Sport, nous parlerons de ce qui se passe autour des parquets outre-Atlantique. Nous sommes en play-off pour les NBA. Et vous saurez tout de la pratique du basket au Chesnay à Versailles avec Olivier Bocquel, vice-président de l'Entente Le Chesnay Versailles, qui nous parlera de tous les projets du club et des résultats actuels. Comment ne pas aborder également le naufrage du week-end? Et oui, le PSG a encore perdu un match crucial malgré toutes ses stars qui étaient présentes. La faute à qui? Est-ce la faute aux joueurs? Est-ce la faute de l'entraîneur ou alors du président qui est de plus en plus contesté ces derniers temps à la lecture des différents articles de presse? On en débattra entre nous, messieurs, donc il faudra se mouiller. Hein. Chacun dira c'est la faute de tel joueur, c'est la faute de tel entraîneur. Ou c'est la faute du président. Et on fera aussi un petit récapitulatif de ce qui se passe en Ligue 1, puisque avec toi Quentin notamment, qui a le cœur vert, eh bien voilà, rien n'est figé en Ligue 1 et on aura des clubs français totalement inédits en Coupe d'Europe l'année prochaine éventuellement. Allez, tout de suite, on ouvre les débats.
Hé, hey, Toshiba là-bas, oh, tu veux que je t'apprenne à tirer dans un ballon, le connard?
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea.
Tu sais combien je te paye là pour jouer avec tes pieds, connard?
Nasser se pose-t-il ses questions à l'égard des joueurs du PSG? Combien les payent-ils pour jouer avec leurs pieds? C'est, on ne répétera pas l'insulte. Bon, ça vous a surpris ou pas cette finale perdue samedi dernier contre Rennes, on le rappelle, au tir au but? Alors, d'un point de vue technique, c'est pas une défaite hein, pour le PSG, puisqu'ils n'ont pas perdu à l'issue des prolongations. Ils se sont simplement fait éliminer de la finale au tir au but, donc ils restent encore invaincus d'un point de vue simplement technique de la Coupe de France. Ça fait depuis, je ne sais plus, six saisons, c'est la 7e édition, ils sont encore invaincus. Donc on verra ensemble si les critiques vous paraissent opportunes ou non sur ce cataclysme. Le PSG finalement qui ne remporte qu'un seul titre cette saison, une première depuis l'arrivée du Qatar au PSG. Qu'en penses-tu Quentin ?
Le PSG a un niveau de performance au niveau des titres qui sont de l'année qui est tout simplement exceptionnel depuis l'arrivée des Qataris. Par contre, par rapport aux moyens qui sont à disposition, les résultats sont tout simplement décevants. On va de saison catastrophique en saison moyenne et là, il y a tout un climat autour du club qui est dur pour les supporters, mais j'imagine aussi pour les joueurs. Et là, il va être temps vraiment de changer les choses. Et c'est probablement ce qui va commencer à se passer cet été, avec peut-être malheureusement le départ d'un ou plusieurs joueurs phares et la question d'un renouvellement générationnel qui va se poser.
Alors pourquoi partirait-il ces joueurs phares, Quentin ?
Et bah, tout simplement parce que dans la logique actuelle, c'est gagner des titres et gagner des titres qui comptent. Et pour des joueurs comme Neymar et Mbappé, gagner la Ligue 1, à un moment, ça va plus suffire. Alors il faut voir, c'est soit à partir de la crise qu'on connaît actuellement, on part sur un dispositif qui est plus ambitieux. Et à ce moment-là, on amène de nouveaux joueurs, peut-être un numéro 6, enfin. On renforce l'équipe et on part sur des objectifs à court terme, ou alors il faudra penser à changer de rythme.
Qu'en pensez-vous, vous qui êtes dirigeant de club, Olivier Bocquel? Bon, alors j'ai cru comprendre que voilà, la victoire de Rennes en finale de Coupe de France ne vous déplaisait pas, loin de là. Mais en tant que dirigeant, là, est-ce que vous estimez opportune tout ce flot de critiques qu'on entend en direction des boss du PSG à l'heure actuelle, et notamment Nasser Al-Khelaïfi, qui est à chaque fois, qui est durement critiqué pour sa proximité à l'égard des joueurs, pour le fait qu'il n'y ait pas de réelle entente entre le directeur sportif et l'entraîneur. En gros, les journalistes disent que c'est le bordel, il ne tient pas la baraque.
Ben, je pense que les questions sont légitimes. Les ambitions étaient clairement affichées depuis des années. Et on sait que malgré tout, la réussite d'un club, c'est une réussite d'une équipe qui va du président au staff technique, au centre d'entraînement et bien évidemment aux joueurs. Alors c'est ce qu'on voit sur le terrain, c'est les joueurs. Les premiers critiqués, ce sont les joueurs. Mais quand, comme ça a été dit, les performances sont décevantes saison après saison, il est légitime de se poser à un moment la question de l'encadrement. Et on a vu que les changements d'entraîneur ne changeaient pas grand-chose. Donc c'est peut-être au-delà du seul aspect entraîneur et staff technique qu'il faut se poser les questions. Donc elles sont légitimes après. Est-ce que ça apportera des réponses satisfaisantes pour l'avenir ? C'est difficile à dire. Et puis c'est vrai que des joueurs qui ont subi consécutivement des déceptions extrêmement importantes, on pense au Barça l'an dernier ou encore cette année, je pense qu'ils sont marqués psychologiquement et qu'à un moment, on va peut-être pas aller vraiment à l'extrême, mais quelque part ils sont grillés et dans les mêmes circonstances dans les années à venir, ils auront les mêmes comportements, je dirais, ou résignés ou défaitistes. Donc oui, un changement est certainement quelque chose qui peut apporter un supplément d'âme pour les objectifs, encore une fois très ambitieux, que le PSG Qatari s'est fixé.
Alors moi, je vais vous donner mon opinion sur le sujet. Tu me diras, Julien, si tu es d'accord avec ça ou pas. Ouais. Mais pour moi, le premier responsable de cet échec et puis des performances très décevantes du PSG ces dernières semaines, le premier responsable, c'est avant tout le coach Thomas Tuchel. Puisque, OK, ils se font éliminer en Ligue des Champions. Il a raté sa préparation, notamment psychologique, des joueurs sur le match couperet, sur le retour du 8e de Ligue des Champions contre Manchester à domicile. Mais après, il y avait encore des choses, des objectifs à aller atteindre. Enfin, qu'est-ce qui empêchait Tuchel de dire à ses joueurs « Bon, OK, tous les matchs vont compter pour du beurre en théorie jusqu'à la fin de la saison, mais on va aller chercher le record de points, mais on va aller chercher le record de buts pour Mbappé sur une saison en championnat, de manière à garder son effectif mobilisé. » Enfin, là, c'est pas vraiment la faute du président. Enfin, le président est là pour installer une structure. Et je pense que la présidence actuelle a essayé en tout cas de bien structurer le club dans tous les domaines. Et à un moment donné, enfin, celui qui est là pour motiver les troupes, et là c'est un problème de motivation qu'on retrouve sur le terrain, tout ça c'est du ressort de l'entraîneur, le coach. C'était à lui de les motiver pour leur dire « Allez, on reste mobilisé, on va aller chercher tel ou tel record, tel ou tel finale. » Là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont... ils ont abordé chaque match de façon assez désarmante, en marchant sur le terrain, en donnant peu d'envie, en jouant vraiment à haute intensité quelques minutes de match, et on a abouti à des accidents comme ce qu'on a vu là samedi soir contre Rennes, où en gros quelques joueurs ont joué le jeu pendant quelques minutes et après se sont démobilisés un peu comme d'habitude. Julien.
Non, bah en fait, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'en plus, on peut ajouter à ce que tu viens de dire le recrutement de Tuchel, c'est-à-dire ouais. Kerrer, Choupo-Moting, ouais. Hein, quand même. Il y en a un autre, il me semble, qui est...
Kéréard, Choupo-Moting, après Bernat, on ne sait pas vraiment si ouais. c'est lui.
Ouais, et puis on ne sait pas. Et en plus, franchement, Bernat, c'est aussi une question. Est-ce qu'il est bon? Est-ce que c'est un joueur moyen? Moi, je ne l'ai pas vu extraordinaire cette saison. Alors, il a marqué à des moments importants, mais et encore. Donc, je suis assez d'accord avec toi de ce point de vue-là. Maintenant, franchement, je vais juste prendre le cas de figure de la finale de la Coupe de France. Verratti ne tire pas de pénalty. Marquinhos, ouais. Après avoir gagné le toss, se retourne vers Neymar pour savoir qui doit commencer les tirs au but. Donc, pour un capitaine, je pense qu'on on a vu mieux. C'est vrai que Tourelle a fait peut-être des mauvais choix tactiques par moment. Je pense avoir fait beaucoup, il a beaucoup fait jouer Neymar dans la saison, ce qui peut peut-être expliquer aussi la blessure et donc l'absence. Maintenant, je pense que le problème du PSG, là, ça fait trop longtemps, c'est pas que l'entraîneur. Au bout d'un moment, c'est l'institution entière. Là, il y a tout qui va pas au PSG. En fait, il n'y a pas d'âme, c'est pas un club de foot. En tout cas, c'est pas un club de foot de haut niveau.
Ouais, mais bon, ce sont aussi les victoires qui construisent la culture, l'identité d'un club. Et là, honnêtement, on parle d'une finale perdue, ouais. alors que le PSG avait remporté, je ne sais plus, les 6 finales précédentes. Les 6 ou 7 finales précédentes. Enfin, ouais, on était sur un record de longévité et puis sur un règne très long du PSG. À un moment donné, banaliser comme finalement tout le monde l'a fait,
ouais, ouais.
Des matchs couperets, parce que chaque match de Coupe de France est par définition un match couperet. Finalement, bon là, il se plante en finale, alors que si l'institution était défaillante, enfin, il n'aurait pas gagné 6 ou 7 finales d'affilée ces dernières années. Tu vois, enfin là, finalement, on peut remettre les choses dans leur contexte,
oui, mais...
dédramatiser un petit peu la situation.
Je suis d'accord
et dire,
avec toi, mais elle est bon, où l'adversité voilà. Où est-ce que tu as vu de l'adversité sur ces 6 dernières années en Coupe de France et en Coupe de la Ligue? Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Et même avant-hier soir, il n'y en a pas eu non plus, en fait. Hein. C'est le PSG qui laisse Rennes revenir à l'égalisation.
On ouais. peut donner à Rennes quand même qu'ils ont fait leur match et justement, ils ont eu la volonté d'égaliser.
Oui, ils ont
Ensuite,
fait leur match.
Le football, bah, c'est un sport qui est un petit peu magique aussi pour ça, mais parce que c'est très difficile de marquer un but notamment, mais on a toujours la petite équipe ouais. qui peut battre la grosse. Et c'est vrai que même avec un effectif qui est d'une qualité bien supérieure à ce qu'on peut trouver en France, bah, remporter tous les matchs de coupe pendant des années et des années, c'est une performance qui est une performance sérieuse. Mais ouais. ensuite, là, je pense qu'on ne parle pas d'une déception pour Paris. Par rapport à la
Coupe de France, aussi, hein.
c'est juste une humiliation. Et en fait, la vraie déception, et là où on peut remettre en cause le travail de l'institution, c'est plutôt sur la Ligue des Champions. Et on ne sait pas exactement jusqu'à quand les Qataris vont rester. Ils ont prévu, a priori, d'être là au moins jusqu'à la Coupe du Monde en 2022, même si y a eu des rumeurs sur un désengagement un petit peu rapide par rapport aux résultats sportifs. Mais bon, en tout cas... On ne sait pas ce qui se passera après 2022. Et moi, j'ai une seule question à vous poser. C'est est-ce que vous pensez la saison prochaine, juste en remettant une pièce dans la machine, en essayant de garder les meilleurs joueurs, etc., et en changeant pas le fond du fonctionnement du club, est-ce qu'on va gagner la Ligue des Champions ou alors est-ce qu'il faut complètement repenser le modèle? Et moi, j'ai une petite idée derrière la tête, c'est que tout simplement, ici, en région parisienne, eh ben, on a un vivier de jeunes talents qui est incomparable au niveau du football. On a encore des moyens qui vont être incroyables pendant 2-3 ans pour bâtir des structures solides. Peut-être, on critique souvent les problèmes d'école, de formation à très haut niveau technique ou tactique dans le football français. Mais voilà, là, c'est l'opportunité pour faire venir, je ne sais pas, des Bielsa ou des cerveaux du football à la formation et puis faire en sorte que ce club continue à rayonner sur le football européen, mais pas pendant 2-3 ans, pendant 20-30 ans.
Ok, bon, avant de donner la parole à un auditeur, on accueille quand même Elliot, qui est, eh bien, qui est René. Bon, en tout cas, tu as passé une partie de ta vie là-bas. Comment tu as vécu ce match-là? Enfin, quand même, a priori, c'est quand même une surprise. Et ça ressemble pas du tout aux fins de saison que le PSG nous avait habitué ces dernières saisons. Enfin, en tout cas, ok, il se plante en Ligue des Champions, mais au moins il finit ce boulot.
Bah, c'était une sacrée surprise, ouais. Mais bon, c'est... Enfin, moi, j'ai pas vraiment d'attache avec, avec le club de foot rennais. Je suis pour Lyon, donc c'est pas, c'est, j'ai pas vraiment, j'ai pas jubilé ou quoi que ce soit. Mais quand je pense à mes potes qui sont 100% rennais, et eux, ils ont vraiment jubilé. C'est la première fois qu'ils ont un trophée, donc c'est plus un club de losers.
Ouais.
C'est plus un club de losers maintenant. Et ouais, c'est sympa de les voir gagner et voir le PSG un peu tomber, et ça va les faire réfléchir un petit peu.
Bon, on va donner la parole à un auditeur qui est connu de la maison, c'est Saïd Benchek, alias le fondateur de l'émission. Salut Samy.
Un auditeur, hein, salut, bonjour à tous.
Je me suis rectifié en deuxième partie de présentation, merci. Alors, Samy, on te sent très remonté, d'où l'origine de ton appel, envers l'équipe du PSG. Et alors, enfin, on disait là il y a quelques minutes, enfin, notamment opinion, c'était de dire bon, c'est pas forcément la faute de l'institution, mais plus la faute du coach Thomas Tuchel. Qu'en penses-tu?
Bon, je pense que les torts sont partagés. Maintenant, si on parle purement sportif, c'est pas que de la faute de l'entraîneur. Au contraire, je dirais que c'est juste la conséquence de plusieurs mauvais choix de longue date qui ont été un peu passés sous silence grâce à des recrutements phares l'année dernière. Enfin, oui, le recrutement de Neymar et d'Mbappé. Voilà, mais le problème du PSG vient du départ de Leonardo, de Zlatan qui faisait un peu l'arbre qui cachait la forêt, de pas mal de choses qui ont traîné, des affaires Aurier, des affaires avec Laurent Blanc, bref, pas mal de choses qui ont traîné. Ce club ne progresse plus, et ça c'est une évidence. Depuis pas mal de temps, là c'est juste une des saisons les plus catastrophiques depuis l'arrivée des Qataris, mais pas que, hein. C'est-à-dire que mis à part le championnat, le ratio budget et puis ce que produisent les joueurs sur le terrain est bien évidemment inversement proportionnel. Ouais. Maintenant, j'ai envie de dire qu'il faudra un coup de balai, et cette fois-ci, il le faudra un peu en profondeur. C'est-à-dire que, pour moi, le directeur sportif, c'est complètement un échec. Donc, c'est au revoir. Le président Nasser, s'il veut garder son poste, même s'il a la confiance des propriétaires, il va falloir encore une fois, et on disait déjà la même chose depuis ma première remontada face à Barcelone, il va falloir encore une fois rechanger les choses.
Et c'est ça, mais c'est qu'on dit tout le temps la même chose en fait.
Oui, bien sûr, mais
chaque année.
C'est que ça change pas, c'est que chaque année on fait croire aux supporters que voilà, on repart, on achète Neymar, c'est Mbappé, cette fois-ci ça va aller mieux, et puis voilà, et ceci, cela. Mais non, mais là on voit clairement qu'il y a de grosses lacunes, Kimpembe qui n'est plus parvenu de la Coupe du Monde, qu'il n'a pas joué, Areola, un gardien d'un grand club européen, entre guillemets grand club européen, incapable de même toucher un ballon sur un penalty, sur un tir au but, c'est de se prendre des buts aussi casquettes que enfin, c'est du n'importe quoi, la défense avec des recrues défensives, Thilo Kehrer qui automatique, qui n'a pas sa place au Paris Saint-Germain, le recrue offensif, Lokomotiv, qui n'a même pas sa place en Ligue 1. Voilà, et on enchaîne, Verratti qui se blesse tout le temps, Neymar qui se blesse tout le temps, voilà.
Bon Samy, là, on te sent vraiment meurtri au téléphone.
Non, c'est pas meurtri, c'est une analyse lucide d'un club qui part à la dérive, voilà. Mais bon, ce qui m'énerve le plus, bref, c'est un titre, c'est passé, on verra l'année prochaine ce qui se passera pour le Paris Saint-Germain, qui va quand même atteindre les 90 points en championnat sans problème. Bon, trois défaites, dont deux à la deuxième partie de saison, c'est pas quelque chose de... En championnat, c'est pas catastrophique. En Ligue des Champions, bon, ils se sont pris une remontada, mais c'est pas, non, ils ont fait quand même un bon parcours. Les deux coupes, bon, ils les ont, voilà, une en finale et l'autre, ils sont pris trois pénaltys consécutifs. Faut revoir les scénarios aussi des matchs. Maintenant, moi, ce qui m'embête, clairement, gros coup de gueule, c'est les supporters des autres clubs français qui sont là à... Les supporters et les journalistes, hein, on va pas se mentir, qui sont là à cracher dès que le PSG perd un match, perd une finale, se fait éliminer, et les déclarations de Benarfa, on est l'exemple parfait, c'est les remontades, ils ont l'habitude, c'est ce club de riche Qatar, il n'a rien à faire ici. Bon, voilà, pour résumer, et je le dis encore une fois, tous les clubs de Ligue 1, de la deuxième place à la 20e place, mange grâce au Paris Saint-Germain. n'y a pas d'autre. Conclusion. Les droitiers, c'est grâce au Paris Saint-Germain. La visibilité, c'est grâce au Paris Saint-Germain.
Grâce au Qatar, du coup, avec beIN Sport, qui est détenteur de droits aussi.
Non, beIN Sport va sortir des droits télé de la Ligue 1. Les droits télé de la Ligue 1 qui font atteindre un milliard, c'est pas grâce à Rennes et leur équipe en carton. C'est pas grâce à Marseille et leur équipe de tocard, faut dire ce qu'il en est. Là maintenant, je suis désolé, hein, j'ai un gros coup de gueule à passer, mais voilà, ouais. Là maintenant, il faut remettre les choses au clair. Le club le plus détesté, c'est le Paris Saint-Germain, mais c'est le seul club qui vaut quelque chose. C'est le meilleur palmarès du football français. Donc faut arrêter de cracher dessus quand on gagne une Coupe de France tous les 70 ans. Voilà, c'est ça le problème de la France, et je pense que Zlatan avait raison, ce pays ne mérite pas le Paris Saint-Germain.
Moi je pense que tu vas un peu trop vite sur le plus grand club français en termes de titres. C'est pas encore forcément le cas.
Donne-moi un autre exemple, s'il te plaît.
Saint-Etienne par exemple, qu'on peut citer, Lyon aussi.
Ils ont quoi ? Deux championnats de plus que Paris Saint-Germain, en termes de palmarès général, je suis désolé, Saint-Etienne sont derrière, c'est tout.
Pour moi,
c'est juste mathématique.
Ou même Marseille.
Oui, même Marseille, même Lyon, oui, Marseille, et Lyon. Monaco non, également. Non. Nantes aussi.
Non, je suis désolé. Non, à part Marseille qui a la Ligue des Champions.
Il y a quelqu'un qui me dit Dijon à mon oreille gauche.
À part Marseille qui a la Ligue des Champions, on va dire que. Et encore, une Coupe d'Europe, le seul autre club français qui a une Coupe d'Europe, c'est le Paris Saint-Germain. Mm-hmm. À part ça, non, en termes général.
Oui, c'est historiquement, c'est un grand club.
Mais dans cette
logique, c'est historiquement, c'est le meilleur club français, c'est clair et net. Un club qui te fait le quadruplé 3 fois en 4 ans, alors que ça n'a été jamais fait. Ouais. Un club qui gagne 4 finales consécutives de Coupe de France, un club gagne 5 Coupes de la Ligue consécutives. Enfin, bref, c'est des records. Il n'y a plus de compétition en réalité.
Oui, mais bon, Olivier Bockel, quelle est votre réaction là face au désarroi manifesté par Samy?
Non, j'entends cette logique et je la comprends, mais à ce titre-là, on peut peut-être dire que c'est une bonne saison pour le football français, puisque Thomas Tuchel connaît son histoire du PSG. C'est très bien qu'il y a 2 ans, dans une situation identique, d'une saison très moyenne, la réaction de la direction du PSG et de ses sponsors qataris avait été de sortir le chéquier, d'acheter Mbappé et Neymar. Tuchel, ça fait 3 mois qu'il fait passer des messages en disant qu'il a un effectif insuffisant, quantitativement mais aussi qualitativement. Peut-être que la saison très moyenne entraînera la même réaction qu'il y a 2 ans, et que l'an prochain, le PSG sera encore plus un club de stars, entraînera encore plus d'assistance et déplacera encore plus de spectateurs dans les stades. Donc à ce titre-là, il faut peut-être se réjouir. C'est un peu ironique, mais c'est un petit peu le raisonnement poussé à son extrême.
Samy, le mot de la fin ?
Bon, le mot de la fin, il va falloir cette fois-ci, en termes de recrutement, recruter des joueurs qui mouillent le maillot avant tout, des anti-stars quelque part. Il va falloir des guerriers, que ce soit au milieu de terrain ou en défense, parce que le chantier est assez important et les moyens ne sont malheureusement pas assez avec le fair play financier. Tuchel a fait des erreurs, mais je rappelle quand même qu'il y a 2 mois, c'était le meilleur entraîneur du monde. Donc il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Il a fait quelques erreurs, il avait un problème d'effectif, mais bon, partir aussi en championnat avec 13 ou 12 joueurs et ne pas avoir de remplacement, de remplaçant potable, c'était une erreur. Bon, le mot de la fin, l'année prochaine, l'objectif sera encore une fois simple, gagner pour le Paris Saint-Germain, gagner tout au niveau national, et cette fois-ci de faire, gagner et dominer, bien évidemment, et surtout essayer encore une fois de faire illusion en Ligue des Champions et éviter une énième remontada.
Bon, bah écoute, merci Samy, on va te laisser, je sais que tu as une urgence et tu dois partir à la chasse de certains dragons blancs aux yeux bleus. Donc on te laisse partir.
Comme beaucoup hein, ce soir.
Te laisse partir à ta quête. Bonne chance.
Non, c'est déjà fait. Merci.
Ok, allez, on merci te coupe avant que tu nous spoil. Allez, bye. Bon, alors vous avez vu, messieurs, là, que finalement, là, la théorie de Samy, c'est de dire on remet une pièce dans la machine. On remet une pièce dans la machine, on va essayer de recruter une ou deux nouvelles stars. Et voilà, cette fois-ci, on va essayer d'atteindre les objectifs qui ont été fixés. Alors là où je trouve que de la part des médias, il y a un excès dans le traitement médiatique d'une élimination en Coupe de France. On parle de l'institution qui fait défaut, que le club est mal structuré, que... un club avec une vraie histoire, une vraie culture, une vraie identité. Il ne se passerait jamais ce genre de choses-là. Je rappelle quand même que des clubs comme la Juventus ont traîné beaucoup de casseroles, et notamment des scandales de corruption, et qui les ont fait monter en... qu'ils ont fait descendre plutôt en deuxième division. Des clubs comme Barcelone, dont les dirigeants ont été aussi condamnés pour divers trafics, etc., etc. Donc, enfin, aujourd'hui, et le Bayern Munich, dont le président d'honneur à l'époque, Uli Hoeneß, je crois qu'il a été condamné pour fraude fiscale, il a fait de la prison pour ça. Donc, vous voyez, enfin, il n'y a pas un seul club en Europe qui peut se prévaloir de sa culture pour dire « nous, on est parfait ». Vous voyez, on va demander à un autre auditeur du coup ce qu'il en pense, et ce n'est pas n'importe qui. Sa parole radiophonique se fait rare ces derniers temps, mais comme il est en mode play-off, eh bien, il est là quand il faut être là. Salut Nouradine.
Salut Gilles, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Ça va ?
Ça va, et toi ? Alors comment as-tu vécu cette déconvenue là, et puis pour rebondir un peu sur nos derniers débats ? La faute à qui ? Est-ce qu'il n'y a pas un excès, une surréaction de la part des supporters, de la part des médias, de la part de tous les autres clubs sur voilà, la saison du PSG en tant que telle, sur ses perspectives, son développement. Moi, je pense que voilà, tout le monde en fait des tonnes un peu pour rien.
Bon, après, surréaction des supporters, c'est normal. J'ai envie de dire, parce que bon, un supporter, un amoureux du club, attention, hein, je parle pas de violence contre des joueurs éventuels ou de choses comme ça, mais du coup, une surréaction des supporters, c'est plutôt normal. Hein. Je crois que c'est cette année que les supporters de Paris, du Paris Saint-Germain, ont le plus espéré aller au bout, en voyant notamment les clubs comme, je sais pas, le Real de Madrid ou d'autres clubs qui étaient un petit peu en difficulté, vu que le Real était censé être la bête noire qui allait rafler la mise même après le départ de Zidane. Mais bon, quand on a vu que ça se gâtait, voilà, ils se sont dit bon, bah il y a des équipes qui sont en difficulté, et cette année, nous, les supporters de PSG se sont dit on joue plutôt bien, on était dans un groupe avec Liverpool et Naples, on s'en sort, et malgré un début un petit peu difficile, PSG tape Liverpool à la maison, ils vont chercher un bon résultat aussi à Naples. Ouais. Du coup, voilà, ça joue bien, et puis on se dit, voilà, c'est l'année ou jamais, on commence à parler de ça dans les médias, et tous les mêmes médias qui se retournent aujourd'hui, je te renvoie à tous les podcasts où on disait, ouais, là, vraiment, le PSG, ils ont un coup à jouer. Ils vont à Manchester, ils gagnent 2-0 au match aller, effectivement, après un retour comme celui auquel on a pu assister. Forcément, ça crée de la frustration chez les supporters qui se disaient et qui se disent mais comment ce match a pu échapper au PSG. Ensuite, sur la Coupe de France, c'est un peu la continuité de ce qui s'est passé. Hein. Parce que quand tu vois le match et quand tu vois, bon, même en termes de statistiques, c'est un match que le PSG ne doit pas perdre, encore une fois. Donc, ça fait beaucoup de matchs donnés par le PSG, sauf que quand tu donnes des matchs et que ce qui se passe maintenant, c'est exactement ce qui s'est passé contre Barcelone ou contre d'autres équipes quand le PSG a été sorti, c'est un manque de préparation, je sais pas, peut-être mental, des problèmes aussi au niveau du recrutement. Du coup, ce que Tourelle l'a dit, qui m'a marqué moi, tu sais, quand ils se sont fait taper par Lille, là, 5-0 ou 5-1, je sais plus combien. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, Tourelle? Il a dit oui, mais c'est pas possible. Donc quand tu suis l'histoire du PSG, il dit oui, Rabiot, il a quand même cité les cas de Rabiot et de Las Diarra en conférence de presse juste après le match de Lille. Donc tu te demandes, mais pourquoi il dit ça? Alors effectivement, ce qu'on entendait du côté des vestiaires de Paris, c'est que Tourelle, apparemment, depuis le début de l'année, a fait des demandes, voulait des joueurs, voulait se séparer de certains, et que en conflit avec son directeur sportif, il s'est retrouvé, en plus avec des décisions comme le cas Rabiot, avec un manque dans un secteur clé du jeu. Lui, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est ce qu'il est en train de défendre. Est-ce que c'est suffisant pour expliquer que le PSG se soit écroulé, avec l'absence de Neymar, etc., etc. Il y a plein de facteurs qui font que... moi, en tout cas, il me paraît difficile de dire que c'est que par exemple c'est la faute de Tuchel actuellement, parce que beaucoup de gens sont en train de dire que bah il peut pas rester parce que c'est la pire saison du PSG. Moi, pour moi, il faut regarder et du côté de la direction et du côté des joueurs. Et qu'est-ce qui fait que des joueurs, dès qu'ils arrivent au Paris Saint-Germain, ah ben je sais pas ce qu'il y a à Paris. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans cette ville ou dans ce club, ou si ce que disent tous les grands entraîneurs qui sont passés par là en disant que dès que tu arrivais en France, bah, y avait un manque de professionnalisme. Regarde les déclarations de Matuidi, même si la Juve a été sortie par l'Ajax, parenthèse, mais regarde les déclarations de Matuidi, qui découvre le professionnalisme en allant à la Juve, ça veut bien dire quelque chose.
Ouais, ouais, comme chaque joueur allant à l'étranger en général. Hein.
Comme chaque joueur allant à l'étranger. Donc ça veut dire qu'il y a une culture qui s'installe dans les clubs français, surtout même dans les clubs de haut niveau, qui fait que, comme ils n'ont pas l'habitude, je dis pas qu'ils sont tout le temps dans la facilité, mais comme ils n'ont pas l'habitude de l'adversité, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben ils baissent les bras et ils tombent.
Ouais, ça c'était surtout le principal reproche fait par Emery au moment où il savait qu'il allait partir. Mais les cas Rabiot que tu citais, la Nouradine, le fait que Tuchel voulait les utiliser à tout prix pour les matchs, si Rabiot avait joué sur demande de Tuchel, tout le monde aurait sauté encore une fois sur la direction en disant ils n'ont pas compris l'affaire Aurier, ils commettent à nouveau les mêmes erreurs. Et voilà, c'est pas parce que Rabiot le terrain que le PSG aurait gagné son match, tu vois.
Là, ça n'a rien à voir avec l'affaire Aurier. Aurier, c'est une affaire où il a insulté son entraîneur sur des réseaux sociaux. Donc là, c'était un problème de crédibilité et de respect de l'entraîneur, où il devait avoir une sanction forte. Là, c'est un joueur, quoi qu'on en pense, parce que moi, je suis pas dans les petits papiers, Adrien Rabiot, c'est certainement un sale gosse qui a plein de défauts et tout ça, mais toi, tu es une équipe de foot, un club de foot. Tu sais que ton joueur, pour des raisons, peut-être que tu es responsable d'ailleurs, c'est peut-être de ta faute, en tout cas, il ne veut pas re-signer. Tu sais qu'il va partir à la fin de l'année. Donc, soit tu le fais partir à la fin de l'année, tu sais qu'il va être libre. Si tu sais qu'il va être libre, bah, autant essayer quand même de profiter de ce joueur, parce que c'est un joueur quand même qui a de la qualité, même s'il il fait des bêtises et tout ça, autant essayer de l'utiliser dans un effectif, parce que si tu ne l'utilises pas dans cet effectif et qu'en plus tu ne le remplaces pas, ça veut dire que tu te prives d'un joueur qui est quand même un joueur qui connaît le club, qui a été titulaire plusieurs fois, qui peut apporter, quoi qu'on en dise, qui peut apporter en tout cas dans le championnat, même si tu ne l'utilises pas en Ligue des Champions, et qui peut permettre de faire tourner ton effectif. Si tu ne fais pas ça, sur, non pas la demande de Tuchel, mais c'est le club, c'est la direction qui a décidé de l'écarter, bah, tu te prives d'un joueur. Sur le cas Diarra, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je ne sais pas pourquoi Tuchel dit Diarra alors qu'il ne l'a jamais utilisé. Donc je ne sais pas. Ça, c'est un mystère. Pourquoi il se plaint en disant qu'on n'a pas Diarra, qui a arrêté finalement, je crois qu'il arrête sa carrière, parce que c'était un problème physique. Et si c'était un problème physique dès le début, pourquoi il n'a pas été remplacé? Et pourquoi ils n'ont pas tout fait pour avoir un joueur un peu plus tôt et commencer des tractations avant le mercato d'hiver? Mais ça, c'est le problème du PSG. On a l'impression qu'ils ont commencé à aller mettre la pression sur des clubs comme Everton. Tu sais, ils ont voulu recruter Idrissa Gueye, qui leur a fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Mais évidemment, ils vont le chercher à 3 semaines avant la fin du mercato d'hiver. Et du coup, le coach d'Everton dit que si Idrissa Gueye part, ben lui aussi il part. Ben, résultat, lui, il réussit à garder son joueur. Everton cartonne en fin de saison dans le championnat anglais. Ils ont même tapé Manchester ou je sais pas qui. Du coup, tu vois, il y a un problème dans cette équipe. Il y a un problème au niveau surtout de la direction et au niveau de la mentalité qui est instaurée dans ce club par rapport à un grand club.
Nouradine, vu que tout le monde connaît tes capacités à prévoir le futur ici pour tes pronostics toujours très aléatoire, comment tu prédis, en deux mots, la saison à venir du PSG? Est-ce que tout le monde quitte le bateau? Est-ce qu'on remet une pièce dans la machine, on recrute tous nos deux stars et puis ils font, on espère au moins l'écart pour eux? Comment tu vois les choses rapidement?
De toute façon, rapidement, s'ils veulent faire un projet à long terme, ils vont être obligés, de toute façon, en question de marketing et tout ça, ils vont être obligés de garder en tout cas Neymar et Mbappé. C'est sur ces deux jours-là que se fera l'avenir du PSG. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut recruter. Ils n'ont pas le choix. Il faut se débarrasser de certains joueurs et en recruter dans le recrutement recruter des joueurs qui ont la niaque, quoi. Parce que c'est un petit peu ce qu'ils ont voulu faire avec Dani Alves, je pense, et avec Buffon, sauf qu'ils sont allés recruter en maison de retraite. Donc c'est bien de recruter des mecs qui ont la niaque, bon, mais qui viennent de maison
encore
de retraite,
des buts en
mais à un
beaucoup,
moment donné, quoi. Quand t'as la niaque, ta niaque elle baisse avec l'âge, quoi. Donc c'est sûr que si t'avais un Dani Alves qui avait 25-26 ans, qui était vraiment, qui avait la niaque, et un Buffon aussi un peu plus jeune, qui était capable à lui tout seul de mettre une certaine stabilité, un peu plus de sérénité dans une défense, mais c'est sûr que ça change. Mais ils se sont trompés. Ils ont acheté des noms, en fait. Ils ont acheté des noms, ils ont acheté un capital. Ouais, c'est des mecs qui en veulent. Et je suis sûr que c'est pour ça qu'ils ont pris Tourelle. Hein. Ils sont dit, les Français, ils sont feignasses dans mon club du Paris Saint-Germain. Je vais aller prendre un Allemand et ça va mettre tout ça au pas. Je suis sûr que c'est comme ça qu'ils ont réfléchi aussi dans leur recrutement. Même si moi, je pense à titre personnel que Tourelle est un bon entraîneur.
Bon, vois, merci avis, pour...
C'est pas où il a mis les pieds, quoi.
Merci pour ton avis très tranchant, comme toujours, Nouradine.
Merci, messieurs.
On te retrouve parmi nous en studio très bientôt.
La semaine prochaine, ouais. Allez, ciao.
Allez, ciao. Bon, messieurs, on a parlé très longuement de football et vous voyez que voilà, y a beaucoup de passionnés autour de la table et surtout au téléphone, apparemment. Mais les choses sérieuses se passent aussi aux États-Unis, puisqu'on est dans la dernière ligne droite au niveau de la NBA. On est dans ce qu'on appelle les playoffs, c'est-à-dire que vous savez, il y a deux conférences NBA, la conférence Est, la conférence Ouest. Les meilleures équipes se qualifient pour des playoffs pour chaque conférence. Et on est au stade des demi-finales de conférence, donc les quatre meilleures équipes de conférence qui s'affrontent en ce moment. Donc, sans surprise, dans la conférence Ouest, on a les Warriors qui se sont imposés hier contre les Rockets sur leur parquet. Donc le Golden State Warriors mène 1-0. Il faut qu'ils atteignent 4 victoires pour se qualifier ensuite pour la finale de conférence. Bon, on va te laisser un petit peu la parole, Elliot, puisque tu es un petit peu le spécialiste sur le sujet. Comment vois-tu l'issue de ces playoffs là? Quelle finale NBA vois-tu pour cette saison?
Ah, c'est difficile à prédire cette année parce que Golden State, ils sont pas hyper en forme. Peut-être qu'ils se préservent un petit peu pour les prochains tours, qui s'annoncent un peu plus marqués que celui-là, parce qu'ils sont direct, ils sont là en demi-finale contre leur concurrent direct à l'Ouest, ouais. qui est Houston. Donc s'ils passent ça, je pense que la finale
contre
NBA,
Denver. Alors la finale de conférence, effectivement, c'est une finale assez ouverte.
Ouais.
Puisqu'il va rencontrer soit Denver, soit Portland, qui ne sont pas, enfin, ce ne sont pas des équipes habituées à jouer des finales de cette importance.
Ouais, elles sont encore peut-être un peu pas assez matures ou avec un banc pas assez important pour Portland, pour Denver, c'est plus un manque d'expérience. Ouais. Parce qu'ils ont, c'est leur premier playoff, ils ont une équipe vraiment très forte, mais ils ont failli se faire croquer par San Antonio. C'est moi, je pense que si là Golden State passe contre Houston, c'est ils ont une voie royale pour aller en finale de NBA. Ouais. Après, à l'Est, c'est un peu plus ouvert. On voit hier soir que Boston a battu Milwaukee, qui était annoncé comme le grand favori à l'Est.
Ouais, qui ont les Bucks de Milwaukee qui ont terminé premier de leur conférence cette saison. Ouais. Mais même chose, équipe un petit peu inexpérimentée avec Giannis Antetokounmpo qui est un petit peu la tête d'affiche. Mais finalement, l'équipe ne repose que sur lui un peu.
Bah non, pas concrètement, parce que Bledsoe fait un super travail et Middleton, il est vraiment extrêmement sous-coté. C'est un super couteau suisse, c'est un super scoreur, c'est un super shooter, un super défenseur. Mais je pense que la défense de Boston, qui est vraiment très bien organisée, Brad Stevens et ses adjoints, ils font un super travail. On l'a vu hier soir, ils ont pas laissé shooter à 3 points, ils ont laissé juste Giannis tirer à 3 points et ça fait une large victoire pour Boston alors qu'ils étaient à l'extérieur. Donc,
bon, tu as vu quand même qu'il y a un joueur qui est au top de sa forme en ce moment, c'est Kevin Durant.
Ah, c'est Kevin Durant,
c'est chez sûr. Les Warriors, ils ont quand même en théorie les 5 fantastiques sur le papier.
Ah, ils sont plus 5. Hein.
Il va peut-être revenir d'ici les finales. Hein. Enfin, ils n'ont pas annoncé de durée.
Il
ne
va pas revenir, c'est impossible. C'est sur, et il va jouer avec une jambe
peut-être
en moins.
Peut-être qu'il consulte un médecin barcelonais, on ne sait jamais.
Ouais, peut-être.
Mais Kevin Durant, qui est intenable en ce moment, il a fait un match à 50 points, dont 38 sur la première mi-temps. C'était le dernier match contre les Clippers.
Ouais. Petit coup de cœur pour les Clippers qui, malgré leur équipe qui est dite très inférieure aux Warriors, qui a réussi à les tenir et à leur prendre deux matchs même, ce qui n'était pas arrivé depuis quelques temps en premier tour des playoffs. L'année dernière, ils ont battu Portland ou Nouvelle-Orléans.
Ouais, mais ça, c'est Doc Rivers, ça. Enfin, ils sont toujours chiants à jouer, les Clippers, en playoff.
Ah, bah non.
Même à l'époque contre San Antonio, je me souviens, les Spurs qui passaient en match 7.
Ils ont quand même eu pas mal de mal pendant un moment avec Blake Griffin et Chris Paul. Tu vois là que peut-être Doc Rivers, avec une équipe qui peut vraiment moduler et mettre sa patte dessus, il peut faire des trucs et c'est pas un coach qui est surcoté. Lui qui a été décrié pendant de nombreuses années parce que les Clippers, ils ont dit oui, ils ont une super équipe, ils ont une des meilleures équipes, bon, mais ils arrivaient à rien, bon. Et là, c'était peut-être les joueurs qui étaient pas forcément très enclins à se fondre dans le collectif et à partager un peu la balle. On le voit là maintenant, Blake Griffin, il est parti, Chris Paul est parti, DeAndre Jordan est parti. Ouais. Là, il a plus aucun qui était là avant.
Alors, tu as vu la rumeur transfert là? Qui envoie Kyrie Irving aux Clippers
saison
prochaine.
Kyrie, il l'envoie à New York, il l'envoie partout. C'est pas pour l'instant. Pour l'instant, je pense qu'il faut d'abord laisser passer les playoffs avant de faire n'importe quelle conclusion, parce que c'est pas. Ils disent aussi que KD va partir à New York. Enfin,
ouais, alors, apparemment, le contrat serait déjà signé et puis ils attendent juillet pour l'officialiser.
Ouais, c'est.
On va demander l'avis à Olivier Bocquel. Vice-président de l'entente Le Chêne et Versailles. Vous suivez un petit peu la NBA ou alors vous êtes plutôt Euroleague ou basket français, Pro A ou basket.
Non, tu es un peu la NBA après d'assez loin parce que malgré tout, fondamentalement, c'est un sport différent parce que c'est un sport spectacle. Mais oui, bien sûr. Et puis, on ne peut pas être coupé de la NBA, ne serait-ce que parce que tous nos jeunes dans les clubs. Rêve NBA, ouais. Pense NBA, voire pour les plus brillants, s'imagine un avenir NBA. Donc,
c'est un peu le rêve américain, là, absolument. Pour le coup, ou si on est drafté, c'est bon, quoi.
Et comme depuis quelques années, quelques Français ont eu l'occasion de faire le parcours, ben, je crois que ça donne des rêves et des espoirs à beaucoup de jeunes.
Vous avez une équipe ou un joueur que vous suivez particulièrement outre-Atlantique?
Nous, on a un petit faible pour les Clippers parce que.
Ouais, parce qu'on va en parler après. Vous avez un partenariat avec l'université de
Los Angeles et qu'on a la possibilité d'envoyer des jeunes chaque année voir un match des Clippers. Mais bon, après, on suivait forcément avec une petite affection particulière les Spurs avec leur français et surtout tant que Tony Parker y jouait.
Ouais, tu as un petit. Une petite vision là pour l'avenir des finales NBA.
L'avenir des finales NBA, ils peuvent perdre Golden State cette année. Ils sont moins forts que l'année
en finale.
Ouais, ils sont moins forts que l'année
dernière. Ça sera contre une équipe nouvelle.
Ouais, mais Curry il est blessé. Thompson il est un. Je pense qu'il pense à son gros contrat déjà maintenant. Tu vois
avec
qu'il
qui
est... Avec souvent on parle de Los Angeles mais des Lakers.
Et ah ouais.
Ouais.
Ah bon.
Il y en a beaucoup qui. Et tu vois qu'il n'a pas la tête à jouer. Il n'est pas aussi tranchant que d'habitude. Même si il est solide, mais il n'a pas l'impact qu'il a d'habitude en playoff.
Moi, je vois bien une finale Warriors-Toronto. Toronto qui a l'habitude des finales de conf. Ils sont réguliers à chaque fois quand ils vont en playoff. C'est pas pour se faire exterminer dès le premier tour.
Ils sont réguliers, mais ils ont du mal à passer les demi. Mais après, faut parler. On parlait de Kevin Durant tout à l'heure. Faut dire que Kawhi, il en a mis aussi 50, presque 49. Mais il en a mis beaucoup. Et Siakam, il pourrait faire du mal à Golden State. T'as raison.
Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots, Elliot, des championnats universitaires aux États-Unis, puisque dans la mesure où la NBA correspond à une ligue fermée, eh bien, les championnats universitaires ont une importance qui n'a pas de comparaison ici en Europe.
Bah alors, on peut résumer la saison en un seul mot, c'est Zion, c'est, il n'y a eu que de, des regards pour lui.
Alors Zion, c'est qui? C'est un joueur?
C'est un joueur, c'est Zion Williamson. Tout le monde en a probablement entendu parler, ou au moins regardé sans forcément le connaître. On a probablement tous vu sa vidéo où il explose la chaussure. Mm-hmm. C'est un joueur qui est phénoménal, vraiment. Il y en a plein qui disent que c'est le prochain LeBron, mais bon, c'est des comparaisons complètement... Enfin, c'est des comparaisons, quoi. Faut jamais s'y fier. C'est un joueur qui est plus lourd que presque tous les joueurs NBA. Il y en a qu'un seul qui est plus lourd, c'est Marjanovic.
Ah oui, c'est celui qui... Ouais, je vois, c'est lequel.
Mais bon, Marjanovic, il lui rend 30 cm quand même. Et c'est le joueur qui... c'est un joueur qui a un jump phénoménal. Il a une impulsion qui a plus de force que tous les joueurs NBA sauf Drummond, et c'est un sacré bébé.
On dit lui qu'il est un peu maigre quand même, non?
Zion?
Ouais, au niveau des jambes.
Non. Ils avaient peur.
S'est fortifié?
Non, ils avaient peur surtout par rapport à la masse musculaire qu'il avait, parce qu'il pèse quand même presque 150 kilos. Non, 130, allez, 130.
Ouais.
Et comme il n'est pas très très grand, ils avaient peur qu'il était vraiment en surpoids par rapport à sa taille et que ses chevilles ou ses genoux ne tiennent pas la cadence. Après, on peut dire aussi que la saison, elle était spéciale, donc le champion, il n'a rien fait. Villanova, ils sont un peu en reconstruction. Ils ont perdu tous leurs joueurs la saison dernière. Tous ils sont partis en NBA. Ils ont tous à peu près des saisons très correctes. Donc on voit que le système de formation de Villanova, il est très intéressant. Tous les regards, ils ont été sur Zion et sur Duke, qui ont malheureusement rien fait. Ils ont allé en Final Four, mais bon, c'était pas. Ils n'ont pas fait long feu contre Virginia ou Texas, je ne sais plus si c'est North Carolina ou pas. Et en Final Four, on a vu la victoire de Virginia contre Texas Tech, donc c'était historique. C'était deux équipes qui n'avaient jamais atteint le Final Four. Virginia, c'est l'équivalent de Rennes, c'était le loser qui finissait toujours troisième, alors qu'ils avaient une certaine équipe dans les années 80.
L'ensemble de ces joueurs, alors ils vont participer à la draft et puis ils vont atterrir dans les grosses écuries, c'est ça?
Chez Virginia, ils sont comme les joueurs, ils sont arrivés en Final Four, ils ont eu forcément toute la visibilité que ça peut apporter, donc ils vont forcément être draftés. Et moi, je vais parler de mon chouchou à la draft, c'est Matisse Thybulle. C'est un super défenseur, il est un petit peu sous-côté, je pense. Il ressemble beaucoup à Mikal Bridges, qui s'est fait drafter l'année dernière, qui vient de Villanova. Et après, ça risque d'être une draft à peu près beaucoup moins forte que l'année dernière, déjà. C'est sûr et certain, ça ressemble plus à une draft moyenne, un entre deux. Donc après, une draft très forte, une draft un peu moins forte.
Bon, on va demander à Olivier Bocquel si le fait d'avoir envoyé des jeunes du club de Le Chesnay Versailles à Los Angeles ces derniers mois a pu donner des idées aux jeunes, le système universitaire de basket, le modèle américain, la NBA, le fait de participer à la draft. Expliquez-nous comment s'est organisé ce voyage au sein du club.
Et ben, c'est maintenant la 7e année consécutive qu'on a donc ce système d'échange qui nous permet d'envoyer une équipe. Alors ça a été alternativement filles-garçons, et puis là c'est deux années consécutives où on envoie des garçons qui ont l'occasion de s'entraîner tous les soirs de la semaine avec des lycéens du lycée international de Los Angeles, puisque c'est avec ce lycée qu'on a notre partenariat. Et puis, au cours du week-end, le samedi, ils ont la chance de jouer au Staples Center un tournoi en levée de rideau. Alors, c'est un levée de rideau en matinée par rapport au match de NBA qui se joue le soir. Cette année, c'était le match Clippers contre les Brooklyn Nets. Et dans la journée, ils ont l'occasion, à l'initiative du lycée international, de faire un certain nombre de visites, par exemple de visiter les installations de UCLA, de l'Université de Los Angeles. Et forcément, ça fait rêver, parce que quand on voit ne serait-ce que les installations sportives, je pense que tout le monde rêve un jour de pouvoir étudier et de pouvoir être dans cet environnement. Donc oui, je pense qu'ils reviennent avec des étoiles plein les yeux, et forcément, ça donne envie. Alors, un scoop, l'an prochain, le LCV ne présente personne à la draft. Mais je pense que c'est un rêve que beaucoup caressent.
Ah, mais en tout cas, nous allons peut-être présenter nos, nos propositions d'adhérer à l'ELCV en trafiquant un petit peu nos âges et puis pour faire partie de la petite délégation, aller aux États-Unis. Ça prend une grande partie du budget, le fait de financer chaque année des voyages comme celui-là. Vous avez des partenariats forts au niveau du club?
Ben, le premier partenariat, c'est effectivement qu'on répond à l'invitation du lycée international. Il se trouve que le responsable un petit peu des activités extrascolaires du lycée international de Los Angeles est un Français, une personne originaire de Versailles. Et c'est à son initiative que ce partenariat s'est créé. Donc tout ce qui est encadrement, hébergement, tout ça est pris en charge par le lycée international de Los Angeles. Il nous reste bien effectivement à aider au niveau du transport, mais ça reste, compte tenu du caractère extraordinaire de l'expérience que ça représente, ça reste un effort qui est tout à fait raisonnable, on va dire.
Alors, Olivier Bocquel, votre club, l'Entente Le Chêne et Versailles, fort de 800 adhérents à peu près, c'est l'un des premiers clubs.
On a passé la barre des 800 cette année, effectivement.
Ouais, c'est l'un des premiers clubs en termes d'adhérents au niveau de la région, voire au niveau de la France.
Oui, on doit probablement être le deuxième plus gros club français en termes de nombre d'adhérents.
Et vous rayonnez sur toutes les catégories, filles, garçons et chez les jeunes. Quelles sont les sections qui marchent en ce moment-là?
Je dirais que notre ambition, elle est d'offrir la possibilité de pratiquer le basket à tout type d'adhérents et quel que soit son niveau. Alors, bien sûr, il y a l'aspect compétitif. Et là, on va des plus jeunes, dès l'âge de 4 ans, avec une école de basket, une école de mini-basket qui est labellisée Fédération Française, jusqu'aux anciens. On a des équipes d'anciens, en passant effectivement par les U13, U15, U17... Des équipes en association aussi pour la partie élite, pour les garçons avec le club de Poissy et pour les filles avec le club de Maurepas. Et puis on a aussi un volet très important pour nous qui est les pratiques, je dirais les autres pratiques qui s'adressent à d'autres types d'adhérents. Ça peut concerner par exemple un public d'handicapés moteurs et on a deux sections de sport adapté qui compte jusqu'à 40 adhérents. On travaille avec les principaux centres qui s'occupent de ces publics au niveau des Yvelines. On ouvrira à partir de l'an prochain une section basket fauteuil, donc Andy Basket, là aussi en partenariat avec deux institutions qui sont les EREA de Vaucresson et de Garges. Donc voilà, une pratique, je dirais, qui s'adresse vraiment à tous et qui permettent à chacun, quel que soit son niveau, élite, pratique de loisirs, pratique simplement de pour progresser, pour se réaliser soi-même, donc une pratique ouverte à tous. Donc effectivement, on couvre un public très très large.
Et vous fêtez les 20 ans du club cette saison, alors ce sont les 20 ans de la fusion.
Absolument, il y avait historiquement deux clubs à Versailles, un club féminin, un club masculin, et puis un club mixte au Chêne. Et en 99, ces trois entités ont fusionné pour ne faire plus qu'une, d'où notre logo « Tous pour un ». Et donc ça a donné naissance à ce club qui s'appelle l'Entente Le Chêne Versailles, et qui, de ce fait-là, après avoir connu dans un premier temps une perte de licenciés, après la fusion, ben, progressivement s'est reconstruit. Et c'est un petit peu comme ça qu'aujourd'hui, on est devenu un gros club en termes de licenciés.
Ouais, donc un mariage plutôt réussi. Ce n'est pas forcément le cas dans les autres disciplines où, malgré voilà, les encouragements qu'on peut voir de la part de la communauté d'agglomération ou du département sur la mutualisation des moyens et sur des fusions de structures sportives, on a encore beaucoup de Versailles, le Chêne, qu'on appelle dans le jargon yvelinois, quand il y a un match entre les deux clubs, un château tico. Voilà. Parlez-nous un peu de vos sections seniors là, chez les filles et puis chez les garçons. Vous êtes en pré-national au niveau de l'équipe masculine pour remonter en National 3, un échelon que vous aviez déjà atteint ces dernières années.
Effectivement, donc on avait connu quelques saisons plus difficiles, on était redescendu jusqu'au niveau de la Régionale 2. On a été champion de Régional 2 l'an dernier, on est en pré-national cette année et on s'est qualifié pour la phase de play-off qui commence à partir du 11 mai pour, on l'espère, retrouver une place au niveau de la Nationale 3 qui correspond à une ambition, je dirais, raisonnable pour le club. Ça, c'est pour l'aspect masculin. De montées successives, ce serait, je dirais, que ce serait une belle réussite, mais bon, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Côté féminin, on a également été amené à descendre l'an dernier au niveau de National 3, et puis ben, on espère faire l'ascenseur. On est aujourd'hui qualifié pour les playoffs de remontée en National 2. Le premier match a eu lieu ce week-end. Nos filles ont été jouées à Ronchin. Elles ont gagné et il leur reste un match à gagner sur les trois à venir pour se retrouver leur place au niveau de la Nationale 2 féminine. Donc effectivement, au niveau de nos deux équipes Fagnon, je dirais des résultats très encourageants et puis une fin de saison palpitante.
Donc encore des perspectives réjouissantes pour les équipes masculines et féminines. C'est aussi le cas pour les jeunes. Il y a encore des échéances à venir là en termes de finale, notamment la Coupe de France.
Absolument. Alors, Coupe de France, malheureusement, on a été éliminé en 16e de finale avec notre équipe cadette, enfin cadet garçons. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de nos équipes sont engagées, que ce soit au niveau régional ou engagées pour jouer le titre au niveau yvelinois. Et puis, je vous parlais des deux équipes que nous avons en association. En union, pour être tout à fait précis. Donc, DU18, qui sont une équipe en association avec le club de Poissy, et qui cette année ont été gagné leur place pour le Final Four du groupe B. Donc, grosso modo, le championnat de France est constitué de 48 équipes. Elles font partie du groupe B, donc des 24 équipes suivantes, sachant que dans le groupe A, ce sont essentiellement des clubs de formation de clubs pro. Et ce week-end, cette équipe a été à Auch battre et le SMUC, donc le Marseille Université Club, et Roanne pour gagner sa place dans le Final Four. Et de la même façon, nos U15 féminines, qui est une union avec le club de Maurepas, s'est qualifiée de la même façon pour le Final Four Championnat de France groupe B et elles joueront le week-end prochain à Vichy.
Elliot, une question ?
C'est quoi vos ambitions pour le futur ? Parce que vous avez quand même 800 adhérents, donc un bon paquet. Quels sont vos objectifs ? Si c'est pour monter encore plus haut que la Nationale 3, si c'est juste des ambitions comme ça, et au niveau des féminines, c'est quoi votre ambition ?
Alors, je réponds à votre question, mais je vais la détourner un petit peu. La première ambition, c'est vraiment celle que j'ai exprimée tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment d'offrir cette pratique du basket à tous et en fonction des niveaux. Parce que finalement, certes, il y a le niveau auquel on joue et le bout du chemin, mais ce qui compte, on le dit souvent, c'est le chemin pour y parvenir. Et il y a autant de satisfaction, que ce soit pour les encadrants ou pour les pratiquants, à voir un jeune apprendre à faire un premier double pas, à voir une personne en situation de handicap faire son premier shoot réussi. Donc, c'est vraiment l'ambition qui anime le club. Après, on a forcément une partie sport de compétition, sport élite. Je pense qu'un niveau raisonnable pour nos équipes Fagnon, c'est celle qu'on est en mesure d'obtenir l'an prochain, c'est-à-dire une équipe féminine au niveau de la Nationale 2, une équipe masculine au niveau de la Nationale 3. Pour resituer les choses, c'est le deuxième niveau amateur. Hein, en féminin, il y a deux ligues professionnelles et puis Nationale 1, Nationale 2. En garçon, il y a deux échelons pro, la pro A, pro B, et puis la nationale qui est virtuellement un championnat professionnel. Et donc là aussi, être en nationale 3 au deuxième niveau, deuxième meilleur niveau amateur, ça nous paraît une ambition raisonnable, en mesure aussi avec les possibilités financières du club, bien évidemment.
On imagine que vous êtes constamment à la recherche de partenariats, et on est dans un contexte où bien, les moyens sont de plus en plus complexes. Les moyens mis à la disposition de ces associations sportives sont de plus en plus durs à trouver. Donc, suppression des emplois aidés, diminution des conseils techniques au niveau des fédérations sportives. Est-ce que ça a un impact concret pour vous au niveau local, toutes ces réformes ?
Alors, la partie conseiller technique nous impacte moins et c'est plus un sujet, je dirais, fédéral. Par contre, effectivement, les emplois aidés, un club comme l'Entente Le Chêne et Versailles, il faut savoir que nous sommes aidés sur un certain nombre de contrats d'apprentissage. On en a de manière très régulière deux ou trois en contrat. On a également des employés des CNDS. Donc effectivement, la restriction budgétaire, elle nous impacte. Et on est obligé, comme vous l'avez fort justement signalé, de faire des démarches auprès de partenaires privés qui sont capables de nous apporter des supports pour nous soutenir dans nos actions. Et encore une fois, nos actions sont très diverses. Donc un impact forcément, sachant que je crois qu'il est clairement compris et intégré par tous les clubs que le système traditionnel de clubs fonctionnant essentiellement sur les subventions publiques, en tout cas, est à sa limite et a commencé d'ores et déjà à se réduire et se réduira encore dans le futur. Donc, charge à nous d'aller chercher des gens que le sport et que toutes les valeurs que le sport véhicule. Et c'est pour ça qu'on est particulièrement ouvert à toutes les nouvelles pratiques que j'évoquais tout à l'heure. Charge à nous d'aller chercher des gens que ce type d'action peuvent motiver.
Alors, un dernier mot, je suis auditrice ou auditeur de l'émission. Je vais faire du basket à Versailles au Chesnay. On peut vous retrouver où la saison prochaine?
Alors, la meilleure chose, c'est de consulter notre site. On a un site qui s'appelle ELCV78, sur lequel on trouve toutes les informations, que ce soit les plannings d'entraînement, que ce soit tout ce qui fait l'actualité de notre club. Alors, vous verrez qu'il est relativement bien fait. On a une nouvelle identité visuelle à partir de cette année.
Un nouveau logo, j'ai vu ça.
Absolument, ce qui d'ailleurs est une dépense significative pour le club, puisqu'on a changé tous nos équipements. Pour une trentaine d'équipes engagées en compétition, ça représente un budget significatif. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'occasion des 20 ans, c'était l'occasion de se doter d'une nouvelle image. Donc un site internet, une page Facebook sur laquelle on retrouve toutes les informations et toutes les actualités du club.
Merci Olivier Bocquel, vice-président de l'Entente Le Chesnay Versailles, club de basket. Et puis on rappelle aussi que certaines de vos sections participeront à la journée de basket féminin organisée dans les Yvelines. Au mois de juin, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Merci en
absolument,
tout cas.
Absolument. Dans le droit fil de ce que je vous disais tout à l'heure, on participe aussi aux Olympiades du Vivre Ensemble qui ont lieu à Versailles, qui sont ouverts à tout public, valide et déficient, que ce soit moteur ou basket-fauteuil. Et on anime deux stands à cette occasion-là, le 11 mai à Versailles.
Vous faites bien de le préciser. Merci Olivier Bocquel d'être venu et puis bien plein de courage pour la suite de la saison pour vos équipes. Merci à vous messieurs, merci Benoît, merci Elliot, merci Quentin, merci à toi Julien en régie. On se retrouve lundi prochain sur Marmite FM de 17h à 18h en direct. Bonne soirée, bonne semaine à tous.
Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport. Parlons sport, une émission animée par Gilles Bombard.